Trainville BM. L'International. Loïc Tassé.
She's a fantastic person, somebody that gets it. Together, we've solved a lot of problems. So at the end of the year, Nikki will be leaving. Thank you very much.
Thank you very much.
C'était Trump, Donald Trump, le président américain, qui se disait, en fait, qui disait à quel point il aimait beaucoup, beaucoup Nikki Haley, son ambassadrice aux Nations Unies. Or, Mme Haley a annoncé son départ. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Renard.
Est-ce qu'on sait pourquoi elle quitte?
Non, grand mystère. Il y a des hypothèses. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent. Première hypothèse, c'est peut-être la plus sérieuse, c'est qu'elle s'entendait mal. Attends, avant de donner les hypothèses, Trump a dit, écoutez, elle m'avait annoncé ça il y a 6 mois, et puis elle est fatiguée, ça va faire 2 ans qu'elle sera là, donc il est normal qu'elle s'en aille. Sauf qu'il n'y a plus personne qui croit Donald Trump, parce que Donald Trump ment comme il respire, donc on se dit, pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Il y a 3 hypothèses. La première, c'est que... elle serait à couteau tiré avec Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, ou John Bolton, qui est le secrétaire à la sécurité. C'est des faucons.
Le conseiller à la sécurité.
C'est le conseiller à la sécurité,
ouais,
tu as raison.
Ouais.
Et donc, c'est des faucons. Elle, il serait plus modérée. Mmh. Et puis, en plus, elle s'entendrait pas avec eux sur la Russie. Elle voudrait qu'il y ait beaucoup de sanctions contre la Russie. Eux voudraient ménager la Russie à cause de Donald Trump. Donc, il y aurait de ça. Deuxième raison. Tout bêtement parce qu'elle voudrait partir, elle voudrait aller faire de l'argent. Elle a été gouverneure en Virginie, on sait tout ça, mais...
Ça se peut.
C'est ça. Elle voudrait une nouvelle carrière.
Elle veut améliorer son sort.
Exactement.
Ouais.
Quand même,
mais pourquoi a-t-elle... Enfin,
ouais, ouais, continue. C'est des hypothèses.
Ouais.
Troisième et dernière hypothèse, qu'elle a niée, c'est que elle serait peut-être candidate à la présidentielle, mais elle vient de dire non, écoutez, je veux pas me présenter et je vais appuyer Donald Trump en 2020.
Tu sais que son nom, tu sais, la fameuse lettre qui avait été envoyée au New York Times là, de quelqu'un de l'entourage de Trump qui a dit « Je reste parce que j'essaie, dans le fond, de le contenir.
Par patriotisme.
J'essaie de limiter les dégâts. Je travaille dans l'ombre pour vous, chers Américains. Je suis un patriote, une patriote. » Il y en avait qui pensaient que c'était peut-être Nikki Haley qui avait signé cette lettre anonyme. Et quand je l'ai vu partir ce matin, je me suis dit « Ah, peut-être que l'entourage de Trump a fini par la soupçonner. »
Oui. Mais en même temps, elle a écrit une lettre au Washington Post en disant « Non, si on veut partir, on ne doit pas faire ça, on doit dire pourquoi on part, c'est pas la façon d'opérer. » Donc, elle savait qu'elle était soupçonnée de ça. Tu me diras, c'est pas parce qu'elle a écrit une lettre au Washington Post que c'est pas nécessairement elle.
Exact.
Mais moi, je m'interroge sur la raison pour laquelle Trump a été si gentil avec elle. S'il l'avait soupçonnée de ça, il me semble qu'il aurait été un peu plus raide.
C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. OK. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe au Brésil. Parce que là, l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir au Brésil. De quelle extrême droite parle-t-on, là? Est-ce qu'on parle d'une extrême droite qui vise à, je ne sais pas moi, par exemple, à développer l'arme nucléaire pour le Brésil? Extrême droite qui vise à faucher la forêt de l'Amazonie? De quoi on parle?
D'abord, on parle du Parti social-libéral de Jair Bolsonaro. Tu sais, c'est lui sur qui on avait tiré il y a quelques semaines, et puis il s'en était tiré, on en avait parlé ici.
Enfin, c'était
on avait donné un coup de couteau
à l'estomac.
Oui, tu as raison.
Oui, voilà.
Il était sur les épaules de quelqu'un,
exact,
et puis
exact.
Sa vie... Bon, alors, il s'en est tiré très bien. Évidemment, ça l'a fait monter. Hein,
bien sûr.
Ça fait toujours ça, ce genre de choses. Alors, il a eu, pour la présidentielle, il a recueilli 46% des voix.
Au premier tour. Voilà.
Et son plus proche rival, Fernando Haddad, qui est du Parti travailliste, est à 29% des voix.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, c'est très serré.
Ben, c'est pas très serré.
Il est très proche de gagner.
Voilà,
c'est
exact. Donc, au deuxième tour, il lui manque 4% des
exactement.
Voix.
Exactement. Il faut dire qu'il y avait une élection en même temps partout au Brésil.
Okay.
Il y avait aussi les représentants, les sénateurs, les maires, partout on élisait des gens. Et avant d'en revenir à lui, je vais dire, écoute, ça va très mal parce que le parti des travailleurs de Monsieur Bolsonaro a recueilli, son parti a gagné 52 sièges sur 513, et le parti des travailleurs de son opposant en a 57. Il y a 30 partis qui sont représentés sur 513 députés. Il y a 30 partis qui ont des députés. Ils ont la proportionnelle, par contre, là-bas. Un effet de la proportionnelle.
Le bordel.
Complet. Alors, c'est pas dit qu'il, même s'il devient président, ce monsieur Bolsonaro, c'est
ça
pas dit qu'il va faire son programme.
Ça va prendre un gouvernement de coalition à 4, 5, 6, 7 partis.
écoute, c'est invivable. Bon, mais lui, il est militaire, il veut armer tout le monde, il est contre la corruption, et c'est ça qui le fait gagner. C'est-à-dire, il est pro, vraiment pour la force brute, et c'est pour ça qu'on dit que c'est quelqu'un d'extrême droite. Il veut que les gens puissent tirer sur les bandits.
Remarque, il y a un gros problème de criminalité au Brésil.
Je ne le nie pas.
Hein? Non, mais je suis pas en train de défendre ça.
Non.
Mais je dis cela pour mettre en contexte l'élection de cet homme-là.
C'est ça.
Il dit, dans le fond, il y a beaucoup de violence.
Beaucoup
de corruption. Donc, la police peut rien faire. Le gouvernement peut pas vous défendre. Ben, moi, je vais vous donner le droit de vous défendre en vous armant.
C'est ça. Et il y a une espèce de ras-le-bol de la population brésilienne avec tous les scandales qu'il y a depuis des années qui se dit, ben, lui, au moins, il va nettoyer le Brésil. On n'est pas nécessairement pour ses politiques, mais on est pour la façon, on est pour la lutte contre la corruption. On est pour la lutte contre la criminalité. C'est ça qu'on veut.
OK. Parle-nous de cette histoire abracadabrante. Qui implique la Turquie et l'Arabie Saoudite.
Oui.
Ça, c'est un méchant...
Un cocktail explosif.
J'allais dire un méchant mélange explosif.
Oui. C'est une histoire invraisemblable. J'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, mais c'est un écrivain saoudien qui est connu, qui s'appelle Jamal Khashoggi, qui est aussi un commentateur sur la scène politique. Donc, il commente aux États-Unis, il commente dans le monde arabe, sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il est assez critique du régime saoudien, mais pas trop, mais il est assez critique pour qu'il se soit réfugié aux États-Unis récemment, parce qu'il avait peur pour sa vie. Bref, pour faire une histoire courte, le type tombe amoureux d'une femme, et il doit divorcer pour épouser cette nouvelle personne dont il est amoureux. Très bien.
Okay.
Il va en Turquie, et il est obligé de se rendre au consulat turc pour obtenir les papiers de divorce.
Au consulat saoudien, en Turquie.
Alors, sa femme, enfin, sa future épouse l'attend à la porte du consulat. Il entre, et il ne ressort pas. Une heure, deux heures, 12 heures après l'affaire. Il n'est toujours pas ressorti du consulat. Alors, sa femme va alerter les autorités turques. Puis
là, on est comme plusieurs jours, là, après.
Oui, ça fait plusieurs jours maintenant. Il n'est toujours pas ressorti. Et les autorités saoudiennes disent, mais non, il est ressorti, il est reparti. Sauf que Erdogan, président turc, pour qui j'ai pas beaucoup de sympathie, mais quand même dit, écoutez, ça a pas de sens, là. Moi, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. En fait, tout le monde pense que les Saoudiens ont assassiné cet homme,
hein?
Cet écrivain. Oui, oui.
L'écrivain rentre au consulat saoudien pour aller chercher des papiers pour son nouveau mariage, peut-on dire, et il aurait été assassiné à l'intérieur des murs du consulat.
C'est l'hypothèse la plus solide. Alors, là-dessus, les autorités turques disent, écoutez, montrez-nous les bandes vidéo pour nous prouver qu'il est sorti.
Ouais.
Les Saoudiens refusent, mais les Saoudiens disent, écoutez, si vous voulez, vous pouvez faire des recherches à l'intérieur du consulat.
Vous ne trouverez pas
de toute façon. Mais c'est ça. Et donc, on s'apprête à envoyer des inspecteurs à l'intérieur du consulat. Mais ça a des répercussions jusqu'aux États-Unis, cette histoire-là. Lindsey Graham dit que...
Lindsey Graham, le sénateur.
Le sénateur très influent, dit, écoutez, ça va avoir des conséquences sur les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis si jamais l'assassinat est confirmé. Et même Donald Trump dit, je n'aime pas ce que j'entends là-dessus. Traduction, ça va coûter très cher à l'Arabie saoudite s'ils veulent racheter ça auprès de l'opinion publique mondiale et américaine. Il faudra qu'ils dépensent plus d'argent pour des contrats.
Affaire à suivre?
Oui, bien sûr.
À demain, Loïc Tassé.
Salut, à demain.
Dans un instant, le monde de Paul Oud.